Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى
الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux. Et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur, le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce lundi 21 février 2022. Je vais vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran élargit ses liens avec les pays d'Asie centrale. Les forces armées yéménites ont repoussé les attaques des mercenaires de la coalition saoudienne contre la ville de Harad. Et au Burkina Faso, demeurent une douzaine de blessés lors du coup d'État. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré dimanche que Téhéran se félicitait de l'expansion constante de ses relations avec tous les pays d'Asie centrale, en particulier l'Ouzbékistan. M. Raisi a tenu ses propos au cours d'une rencontre avec le vice-premier ministre ouzbek, Sardar Umurzakov. Les deux parties sont prêtes à développer et à approfondir leurs relations, a-t-il déclaré. Nous sommes déterminés à avancer à grands pas vers la prospérité et le développement de l'Iran et de l'Ouzbékistan en utilisant toutes les capacités dont nous disposons, a affirmé le président iranien. De son côté, Sardar Umurzakov, qui est également ministre ouzbek des investissements et du commerce extérieur, a déclaré que sa visite à Téhéran visait à examiner les moyens de développer les liens entre les deux pays dans tous les domaines. Il a également exprimé la détermination de Tachkent à approfondir ses relations avec Téhéran dans les secteurs du commerce, de l'économie, des investissements, des transports, du transit et de la culture. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de brigade Mohammad Bareilly, en marge de la cérémonie de l'inauguration du centre du commandement et de contrôle du sud-est de l'armée de terre iranienne, tenue dimanche 20 février, a fait état des capacités et des progrès réalisés dans le secteur de la technologie et de l'information de l'armée et a qualifié d'un impact considérable les innovations nationales de l'armée terrestre dans le domaine de la communication, de la guerre électronique, de la capacité approfondie des systèmes d'interception et de reconnaissance. Le général de brigade Mohammad Bareilly a décrit la création d'un centre de commandement et de contrôle dans la base sud-est du pays comme une autre réalisation de l'armée iranienne. Tous les développements aux frontières sud-est, nord-est, ouest et nord du pays sont transmis au centre de commandement et de contrôle intégré sous forme audiovisuelle et d'autres types de données et ces centres peuvent synchroniquement visualiser les rapports et prendre des mesures appropriées et de manière coordonnée. Concernant les méthodes adoptées par l'armée de terre iranienne, pour l'entretien des armes et des munitions, le général Bareilly a annoncé. Outre les armes et les équipements qui sont toujours prêts à l'usage pour la formation des soldats ou être utilisés dans des opérations, le reste stocké dans les dépôts de munitions de l'armée peut être opérationnel dans une heure maximum, ce qui est conforme aux normes avancées pour un entretien optimal de l'équipement et les utiliser en cas de besoin. parmi un grand nombre de progrès réalisés de A à Z en Iran, de l'aviation de l'armée de terre iranienne, le général Barelli a évoqué la capacité héliportée de l'armée de terre iranienne, disposant alors qu'il est des hélicoptères de combat équipés par des systèmes de vision nocturne avancés et des munitions ayant des portées à la mesure des hélicoptères des pays développés. Le général Barelli a qualifié de réalisation importante et significative l'utilisation d'une technologie de pointe de ce nouveau centre du commandement et du contrôle, y compris la précision, l'intelligence et la portée appropriée d'armes utilisées, et a déclaré que la synergie et la présence des forces expérimentées dans les frontières sud-est de l'Iran monteraient la puissance permanente de l'armée iranienne. Les forces armées yéménites, avec la participation de leurs unités de missiles, de drones et d'artillerie, ont repoussé les attaques des mercenaires de la coalition saoudienne contre la ville de Harat, dans le nord-est du Yémen, leur infligeant de lourdes pertes. Lors de leur avancée sur l'axe de Harat et au cours d'une opération de contre-attaque, les combattants de l'armée d'Ansarallah du Yémen ont pu prendre le contrôle des positions des mercenaires de la coalition saoudienne, a annoncé l'armée yéménite. Selon le rapport, les mercenaires de la coalition saoudienne, avec la participation des forces armées de l'armée saoudienne et des mercenaires soudanais, avaient l'intention de mener des attaques contre les combattants yéménites et prendre contrôle de la ville de Harat à partir de deux axes principaux du sud-est et sud de la ville. Malgré les bombardements aériens et d'artillerie du camp adverse, les combattants yéménites ont pu les faire reculer. Les mercenaires soudanais ont subi de lourdes pertes. Au cours de l'opération, un grand nombre d'équipements militaires des agresseurs ont été détruits, dont plus de 40 véhicules et véhicules blindés, des véhicules de communication, des dragueurs de mines et des lance-roquettes, 60 lance-roquettes Katyusha, 7 canons, un drone de reconnaissance de combat CH-4 de fabrication chinoise et un drone d'espionnage. La contre-attaque des combattants yéménites a fait au moins 380 blessés et 200 morts parmi les mercenaires. Le Kremlin appelle les Occidentaux à arrêter d'annoncer chaque jour une date pour une invasion par la Russie. Les déclarations alarmistes des puissances occidentales sur l'imminence d'une invasion russe en Ukraine sont une provocation et pourraient avoir des conséquences néfastes, a déclaré ce dimanche 20 février le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Le président américain Joe Biden a déclaré vendredi avoir la conviction que la Russie pourrait lancer une opération armée à tout moment. Le président russe Vladimir Poutine ne prête pas attention à ses propos, a dit Dmitri Peskov. Le fait est que cela conduit à une aggravation de la tension. Et quand la tension atteint son comble, comme c'est le cas par exemple sur la ligne de contact, n'importe quelle étincelle, n'importe quel incident imprévu, n'importe quelle provocation planifiée peut mener à des conséquences irréparables, a-t-il averti. Donc, tout cela peut avoir des conséquences néfastes. L'exercice quotidien qui consiste à annoncer une date pour une invasion de l'Ukraine par la Russie est une très mauvaise pratique, a-t-il souligné. Dmitri Peskov a déclaré que l'Ukraine avait perdu son intégrité territoriale suite à un coup d'État militaire. L'OTAN, les États-Unis et le Royaume-Uni continuent d'acheminer des avions cargo chargés d'armes et de matériel militaire en Ukraine, a-t-il indiqué. Le responsable russe a souligné que la Russie n'avait jamais initié une agression et qu'elle ne voulait même pas prononcer le mot « guerre ». La Russie a survécu tous les conflits, a-t-il martelé. Bien que Moscou rejette toute intention d'attaquer l'Ukraine, l'Occident tente de faire croire qu'une guerre imminente serait sur le point d'éclater dans cette zone. Deux personnes ont trouvé la mort et une douzaine de personnes ont été blessées lors des événements du coup d'État du 24 janvier dernier au Burkina Faso, a annoncé la présidence dans un communiqué. Selon le communiqué, suite aux événements des 23 et 24 janvier 2022 qui ont abouti à l'avènement du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a instruit les services compétents d'ouvrir une enquête afin de faire le point des dégâts collatéraux occasionnés. Le bilan rapporté à ce jour, 20 février 2022, fait état de deux décès et une douzaine de blessés civils par l'effet de projectiles perdus, indique le communiqué. La même source précise que le lieutenant-colonel Damiba a aussitôt instruit que des actions soient entreprises auprès des familles des victimes afin de les soutenir moralement, de prendre en charge des blessés et de recueillir leurs différentes préoccupations. La Commission européenne a alloué 40 millions d'euros d'aide humanitaire au Soudan dans le cadre de son financement des opérations humanitaires en Afrique orientale et australe en 2022, a rapporté dimanche l'agence de presse officielle soudanaise SUNA. L'Union européenne a confirmé sa détermination à soutenir le peuple soudanais dans le besoin par le biais des instances internationales, a déclaré SUNA. Les graves problèmes auxquels sont confrontées les populations vulnérables en Afrique orientale et australe ont été exacerbés par les phénomènes météorologiques violents, l'instabilité politique, les conflits et les effets de la pandémie de COVID-19, a indiqué le commissaire européen à la gestion des crises cité par SUNA. L'Union européenne débloquerait au total 294,2 millions d'euros qui seraient alloués à divers projets dans plusieurs pays et régions d'Afrique, dont Djibouti, la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs, l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, l'Afrique australe et la région de l'océan Indien, le Soudan du Sud, le Soudan et l'Ouganda, a précisé SUNA. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Vienne, vers un échec des pourparlers? Est-ce une victoire à la Pyrrhus que cherchent les Américains, à qui l'Iran continue à fermer toute porte au dialogue avant qu'ils ne suppriment les sanctions anti-iraniennes? Toujours est-il que le ton est monté ce dimanche à Téhéran, où pour la première fois depuis le début des pourparlers de Vienne, le ministre iranien des Affaires étrangères a évoqué la perspective d'un échec, soulignant qu'en cas de revers, ce sont les Américains qui en sont coupables. Au fait, personne ne peut confirmer le contraire, y compris les alliés les plus proches de Washington, dont la position se distingue par une confusion totale autour de leur politique iranienne, puis un triple non, non à la levée des sanctions, non à la garantir un retour sans départ US à l'accord nucléaire, non à la possibilité de vérifier si oui ou non leurs sanctions ont été véritablement levées, ou s'agit-il de mesures uniquement cosmétiques? Le ministre iranien des Affaires étrangères met en garde contre le double jeu occidental sur le texte et le calendrier à Vienne, le président Raisi soulignant que tout accord à Vienne devrait inclure la levée des sanctions, une garantie valable et la clôture des questions et revendications politiques. Bien que les délégations de négociation des trois pays européens aient quitté Vienne pour accompagner leur délégation politique à Munich et tenir des consultations avec leur capitale, les négociations se poursuivent à différents niveaux à Vienne. La Russie, la Chine et l'Union européenne continuant de négocier à différents niveaux bilatéraux et multilatéraux, une réunion des délégations de négociation irano-russe s'est tenue samedi 19 février à Vienne, après celle entre Ali Bareilly, négociateur principal de l'Iran, et Enrique Mora, secrétaire général adjoint et directeur politique du Service européen d'action extérieure. Les délégations de négociation Iran-Chine se sont également rencontrées séparément samedi. Faisant état de ses réunions avec le chef de l'équipe de négociation iranienne, Erika Mora, dans un message sur Twitter, le négociateur en chef de la Russie, Mikhail Ulyanov, a souligné que les pourparlers sont concentrés sur des questions importantes qui doivent être résolues avant qu'un accord puisse être atteint sur la relance du plan d'action global conjoint. Le refus des Américains de jouer le jeu est d'autant plus ridicule qu'ils ont même été forcés à mettre à la porte l'architecte des sanctions anti-US, non seulement aux négociations de Vienne, mais au département d'État tout court, et la raison est plus claire. L'échec de la politique des pressions maximales et partant des sanctions alors même que la crise de l'énergie frappe de plein fouet des deux côtés de l'Atlantique ne laisserait aucun autre choix. Une chose est sûre. L'Iran s'est déjà dissocié de ce contexte où les sanctions pesaient sur ses finances. Pour le second trimestre d'affilée, Il a même élargi ses ventes de pétrole pour toucher la barre de 2,5 millions de barils par jour. Lundi, le président iranien est attendu au Qatar pour participer au sommet de l'OPEP de gaz et ce n'est pas dans une pareille conjoncture qu'un échec des pourparlers a inquiété Téhéran. Hormis des propositions et des plans que les responsables iraniens ont à l'ordre du jour pour assister au 6e sommet du FPEG, des plans pour élargir la coopération entre l'Iran et le Qatar dans le secteur du gaz, la formation d'un comité mixte des deux pays pour la production du champ gazier commun de part sud, l'exportation de services techniques et d'ingénierie, la création d'entreprises basées sur la connaissance dans les domaines du pétrole et de l'énergie, et le swap du gaz qatari via l'Iran seront également abordé lors des réunions séparées entre les responsables des deux pays, auxquelles assistera le ministre iranien du pétrole.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur ce discours du secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah. Seyyed Hassan Nasrallah qui a réaffirmé dans son discours que l'avenir de la région se dirige sur une voie entièrement différente de celle prévue par certains protagonistes régionaux et internes et sur lesquels il prévoit leur calcul. Et toujours dans son discours, Seyyed Hassan Nasrallah, s'agissant de cette crise sociétale que traverse le régime israélien, a dit, je cite le secrétaire général du Hezbollah libanais, dans l'entité de l'occupation, la volonté des Israéliens de supporter davantage les dangers de combat semble se rétracter. Il en est de même pour leur confiance à l'égard de l'armée et des institutions étatiques. De même, l'immigration inverse connaît une nette recrudescence, a souligné Seyyed Hassan Nasrallah. Et plus loin dans son discours s'agissant des capacités militaires de la résistance libanaise, Seyyed Hassan Nasrallah a surtout précisé que la résistance était parvenue à en fait transformer cette menace de proférée par le régime israélien en une opportunité, s'agissant, si vous voulez, des frappes menées contre des positions, si vous voulez, en territoire syrien, en disant que voilà, nous avons transformé les milliers de missiles dont nous disposons en missiles de précision. Seyyed Hassan Nasrallah a fait également un autre point important, comme quoi la résistance libanaise dispose désormais de la technologie de fabriquer des drones sur place. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi au téléphone depuis Bruxelles un géopoliticien belge spécialiste des questions internationales, Monsieur Luc Michel. Luc Michel, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonjour à vos collègues et à vos téléspectateurs.
Merci beaucoup. Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est un juriste français spécialiste des questions internationales qui est avec moi pour cette émission depuis Paris par Skype. Il s'agit de Maître Eliatem. Maître Atem, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, merci de votre invitation. Mes salutations également à Monsieur Michel et à tous vos téléspectateurs.
Et Maître Atem, comme première question, quelle évaluation portez-vous sur ce récent discours de Seyyed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah de libanais, s'il vous plaît?
Oui, vous savez, Monsieur Nasrallah, il a fait un résumé de la situation actuelle. Autrement dit, il a rappelé des éléments qui sont très importants, à savoir que, premièrement, il y a un mouvement de résistance nationale au Liban auquel fait partie, ou de quel fait partie donc son parti, c'est-à-dire le Hezbollah, parce que, comme vous l'avez souligné, on parle plutôt de ce qu'on appelle d'un mouvement de résistance, autrement dit des Libanais qui se sont toujours opposés aux attaques et à l'occupation de leur pays par Israël. Il l'a d'ailleurs rappelé, M. Nasrallah, hier dans son discours, que les Libanais, le mouvement de résistance libanaise, est un mouvement défensif et pas du tout offensif. Parce qu'à aucun moment donné, le Liban n'a attaqué Israël. Or, Israël a toujours trouvé des prétextes pour s'attaquer aux frontières libanaises. Et à l'époque, Remo Edé disait que Israël avait une dent ou deux dents en fait contre le Liban. Premièrement, parce que sa société et ses institutions sont diamétralement opposées. C'est un peu comme deux lignes parallèles avec une société multiconfessionnelle libanaise qui s'est constituée depuis des milliers d'années. Et donc, ce modèle-là est en opposition à l'ethnocratie israélienne créée par cette idée d'un État simplement pour une ethnie créée, comme d'ailleurs M. Shlomo Sand, l'écrivain israélien, l'avait très bien souligné sur la création, entre guillemets, de ce peuple juif. D'un autre élément aussi dont Israël a une dent contre le Liban, c'est sa richesse en eau, auquel s'est ajouté également ce problème aujourd'hui qui est celui de la découverte donc de pétrole. Donc ce sont les deux éléments qui ont toujours poussé Israël à s'attaquer au Liban, à la société libanaise par l'intermédiaire de toute cette campagne qui s'est faite contre la nation libanaise, qui est une nation plus que millénaire ou doublement donc millénaire. Le Liban est cité d'ailleurs plus de 70 fois dans la Bible. Donc, ça, c'est le premier constat. La deuxième chose, c'est que dans le discours de M. Nasrallah, il a rappelé, compte tenu de cette envie israélienne toujours de mener la guerre, toujours de s'attaquer au Liban, il a montré une formule, je dirais, dissuasive, en disant, écoutez, si vous continuez, si vous voulez nous attaquer, nous sommes en mesure de répondre. Certainement, et c'est là une question qui est très importante pour vos téléspectateurs, l'armée libanaise est incapable aujourd'hui, l'armée officielle, d'avoir les armes nécessaires pour s'opposer aux agressions israéliennes. Pour quelle raison? Car les armes, les munitions de l'armée libanaise proviennent des États-Unis. Or, comme vous le savez, les États-Unis ont pour allié principal Israël dans la région et n'a jamais permis à l'armée libanaise d'avoir des armes lui permettant de s'opposer aux agressions israéliennes. Donc, c'est la raison pour laquelle que le mouvement de résistance nationale, comme c'était un mouvement de résistance nationale également en France, a pris en charge, et c'est tout à fait légitime, et un consensus libanais, il y avait un consensus libanais aujourd'hui, les agents israéliens, comme d'ailleurs le reconnaissent les officiels israéliens sur les chaînes il y a deux jours, ou depuis avant-hier, quand ils ont parlé que nous sommes en train d'envoyer de plus en plus, de recruter des agents locaux pour détruire, je dirais, cette résistance libanaise. Alors, le discours était très clair de Sayed Nasrallah en disant, attention, faites attention, c'est que nous sommes capables de transformer déjà les munitions que nous avons pu obtenir d'autres puissances que les Américains, autrement dit par l'Iran, même si l'Iran est incapable aujourd'hui de nous donner des armes beaucoup plus sophistiquées, même si d'autres États, la Russie ou la Chine ou les autres, sont incapables de le faire, nous pouvons transformer nos munitions et puis surtout nos fusées en fusées qui sont beaucoup plus sophistiquées pour pouvoir répliquer, répondre à vos agressions. Deuxièmement, nous sommes prêts aujourd'hui également à construire des drones pour voir, pour vérifier vos capacités militaires et prévenir les attaques. Donc ça, c'est la première partie donc, de son discours. La deuxième partie de son discours, il a rappelé que le Liban et la résistance nationale, c'est un pays qui est défensif, c'est un pays qui est tout à fait pacifique, mais il ne peut que répondre à ces agressions. Et d'ailleurs, comme vous le savez, à plusieurs reprises, c'était le général de Gaulle qui, en 1968, avait dit que tant qu'il était en vie, il ne permettrait jamais à cette entité artificielle, et je reviendrai, c'est la deuxième partie du discours de Saïed Nasrallah, d'attaquer le Liban et de détruire en fait sa société et de s'attaquer également à son aéroport. C'était à l'occasion de l'attaque de cette armée israélienne contre l'aéroport de Beyrouth. La deuxième partie,
Maître Atem, avant en fait de revenir sur cette deuxième partie du discours de cet Hassan Nasrallah, permettez-moi d'avoir l'approbation, s'il vous plaît, de Luc Michel également. Je reviendrai vers vous, en fait, plus tard. Luc Michel, venez d'entendre l'analyse de Maître Atem. Votre haute lecture des faits, s'il vous plaît.
Mais le cœur du discours de Nasrallah, c'est qu'il souligne le tournant qu'a été la guerre de 2006 entre Israël, le Hezbollah libanais. C'est en 2006 que le Hezbollah et ses alliés iraniens ont inventé ce qu'on appelle la guerre hybride, qui est la forme moderne de la guerre. À partir de ce moment-là, la guerre classique que dominaient les Israéliens n'a plus été de mise. La caractéristique de cette guerre hybride, c'est la fin de la domination stratégique des États-Unis sur le ciel du Levant, au Liban, en Syrie, etc. Nasrallah évoque les renforcements des capacités de domination du ciel des Libanais, mais également des Syriens et notamment des investissements de leurs alliés russes dans ce domaine. C'est terminé la toute-puissance israélienne dans le ciel. C'est tout terminé. Les menées israéliennes qui étaient menées impunément dans le ciel au-dessus du Liban et au-dessus de la Syrie. Et aujourd'hui, on vient au retour à une forme de parité stratégique telle qu'elle existait lors de l'ancienne guerre froide entre la Syrie de Hafez el-Assad allié de l'Union soviétique et les Israéliens.
Luc Michel, avant en fait de revenir vers Maître Atem, en fait, s'agissant de cette guerre hybride à laquelle venait en fait de faire allusion, Saïd Hassan Nasrallah souligne en fait sur ce point que la résistance est désormais en mesure, si vous voulez, de fabriquer des missiles de précision, également des drones sur place. Ça va changer l'équilibre de force entièrement, n'est-ce pas, Luc Michel?
Écoutez, l'irruption des drones dans la guerre moderne, c'est ce qui a changé le visage de la guerre dans plusieurs théâtres d'opération. Par exemple, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans la guerre du Karabakh, puisque la fourniture par les Israéliens cette fois-là et les Turcs de drones à l'Azerbaïdjan a permis à celle-là de reconquérir des territoires. La guerre des drones, elle domine toutes les guerres modernes et malheureusement, ça a longtemps été une prérogative, bien entendu, des Occidentaux. Mais maintenant, le bloc de l'Est est capable de fournir des drones performants. On l'a vu, par exemple, dans la guerre de sécession du Tigré entre l'Éthiopie et les alliés par procuration de l'Occident, que seront le soi-disant Front de libération du Tigré. Là-bas, c'est l'Iran qui a fourni des drones à l'Éthiopie, mais c'est également d'autres partenaires. Cela change complètement le visage de la guerre et cela fait que la domination du ciel par l'aviation classique n'est plus un élément déterminant.
Maître Atem, la parole est à vous pour en fait de nous parler de cette deuxième partie du discours de Saïd Hassan Nasrallah, s'il vous plaît.
Tout à fait, mais si vous le permettez, j'ai une petite remarque, si je le permets, en ce qui concerne les propos donc, de M. Michel quand il a parlé de la guerre entre Israël et le Hezbollah. Moi, je dirais que Israël, c'était pas son objectif, n'a jamais été simplement le Hezbollah, parce que en 1968, le Hezbollah était inexistant. En 1975, le Hezbollah était inexistant. Même en 1982, son objectif, quand Israël est venu, il a occupé le Liban. Le Hezbollah était une petite milice, ce n'était pas encore l'une des forces les plus importantes du mouvement de résistance nationale. Donc, je reviens à ce point qui est assez important. Israël a toujours une velléité vis-à-vis donc, de la société libanaise multiconfessionnelle et puis surtout ce modèle libanais qui est à l'opposé de ce modèle artificiel israélien, de ce qu'on appelle l'entité israélienne. La deuxième partie donc, du discours de M. Nasrallah, et la première fois d'ailleurs depuis donc, le début donc, de ses interventions politiques jusqu'à aujourd'hui, où il a évoqué un élément qui est très important, qui n'est pas un secret de Polichinelle, et c'est d'ailleurs l'une des grandes préoccupations des Israéliens, ou des sionistes, je dirais, c'est cette fameuse création artificielle d'une entité, d'une nation israélienne. Parce qu'il faut tout d'abord, il faut rappeler en deux mots ce fameux débat qui a eu lieu depuis le début, le départ, vous savez, de cette notion donc du judaïsme politique qui est, je dirais, qui est antérieure au sionisme qui a débuté au début du 19e siècle, avant l'arrivée donc officielle donc du sionisme, c'est-à-dire à savoir si le judaïsme est une religion ou une nation ou un peuple. Donc Shlomo Sand le rappelle dans son ouvrage. Il a fallu donc la création officiellement sioniste internationale pour continuer ce qu'on a appelé l'entité sioniste, et puis qui est un ramassis, je dirais, de peuples qui sont venus de tout le monde. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, la meilleure solution, c'est pour régler ce problème-là, et on le voit, c'est une solution naturelle, c'est une réémigration donc, de ces émigrés qui sont venus par des poussées de fondamentalisme et par des opérations qui ont été menées par les services de l'Irgun à l'époque, la Haganah, et puis tout cela, si vous voulez, pour pousser ces différentes populations à aller en Palestine et créer cette entité en poussant donc les autochtones, donc les Palestiniens, surtout les chrétiens, les autres communautés, à quitter le territoire. On a assisté par la suite également à une déportation après la Seconde Guerre mondiale qui a renforcé ce mouvement sioniste. Or, aujourd'hui, tous les savants, tous les penseurs, tous les gens donc, qui sont en train de travailler sur les questions, y compris des Israéliens, il a cité M. Netanyahou, se posent des questions sur de cette entité artificielle qui est constituée de plusieurs peuples, d'ailleurs, qui viennent de plusieurs pays. Parce que moi, je considère aujourd'hui un Français qui est de religion juive comme un Français et non pas comme un Israélien. Et aujourd'hui, nous avons même un candidat qui est de religion juive à la présidence de la République. Donc tous ces peuples-là doivent retourner à leur pays d'origine. Ils sont en train de le faire, comme l'a rappelé M. Nasrallah, en se fondant, en fait, sur des documents, sur le dossier, en fait, d'Israël. Et ce que, d'ailleurs, les officiels israéliens et même les télévisions ont reconnu chez lui, c'est cette force, en fait, d'expliquer la situation en Israël. Donc, nous assistons aujourd'hui à la fin, à l'apocalypse, je dirais, de cette entité artificielle qui est en train de se disloquer, et elle se disloquera de plus en plus, et c'est la raison pour laquelle M. Nasrallah a rappelé que le Liban n'attaquera jamais Israël, parce que Israël est en train, si vous voulez, de s'attaquer de l'intérieur avec cette dislocation de cette société artificielle, de ces différents problèmes, des problèmes sociologiques, mais aussi des problèmes économiques, et puis elle est en train, je dirais, de s'effondrer progressivement. Alors, selon les religieux juifs, donc cette notion messianique, on dit toujours que les juifs n'ont jamais pu obtenir un État ou constituer un État plus de 80 ans. Bon, ce sont des considérations religieuses que je mettrai moi-même de côté, mais réellement, d'un point de vue sociologique et d'un point de vue politique, tout le monde le sait, et je dirais, avec tout le respect que je dois à M. Nasrallah, bon, il n'a pas inventé le tiède, tout le monde sait que Israël est en train, cette entité sioniste est en train de plus en plus donc de s'effondrer, surtout avec ces nouvelles générations qui ne comprennent pas pourquoi maintenir cet artifice chez eux.
Monsieur Luc Michel, en fait, c'est Hassan Nasrallah a fait allusion, comme l'a dit tout à l'heure Maître Atem, à cette immigration inverse qui, en fait, commence à s'accélérer nettement, qui connaît en fait une recrudescence, pour employer en fait l'expression de Seyyed Hassan Nasrallah. Et Maître Atem dit que voilà, il y a désormais ceux qui s'interrogent, si vous voulez, sur la survie de l'entité israélienne. Qu'est-ce que vous en pensez, Luc Michel?
Écoutez, la question du devenir d'Israël, elle est posée par le sionisme lui-même. Lorsque nous étions dans les années 1980, il y avait eu un grand débat parmi les historiens israéliens. C'était une comparaison entre le devenir d'Israël et la disparition de ce qu'on appelait les États francs du Levant, c'est-à-dire les États créés par les chrétiens au moment des croisades qui ont existé entre 1999, la première croisade et la prise de Jérusalem par Godefroy de Bouillon, et la disparition en 1270 des derniers États chrétiens. Les historiens israéliens disaient que probablement il n'était pas impossible qu'Israël connaisse le même sort, c'est-à-dire qu'on rejette les Israéliens à la mer comme les Francs avaient été rejetés à la mer. Mais ce qui a permis justement la remise en question du devenir israélien, c'est précisément l'émergence du Hezbollah en 2010 comme une grande puissance militaire et la guerre hybride. Justement, la guerre hybride, parce qu'elle est une guerre qui met en cause. C'est une guerre qui est pratiquée dans tous les domaines, y compris dans les domaines historiques, existentiels, économiques et humains. C'est ce qui remet en cause Israël, évidemment, exactement comme la guerre hybride russe remet en cause la domination occidentale en Afrique et en Europe centrale particulièrement. C'est cela qui est le facteur déterminant. Et l'histoire retiendra qu'au départ d'une guerre qui est menée par les Israéliens contre l'existence même du Liban, c'est un mouvement politico-militaire, le Hezbollah, qui en émergeant va remettre lui en cause l'existence même d'Israël.
Et Maître Atem, nous avons en fait une minute devant nous. Le mot de la fin vous appartient, s'il vous plaît.
Oui, alors le mot de la fin est très simple. C'est qu'aujourd'hui, il y a une opposition entre deux modèles et ça se voit et c'est ce que M. Nasrallah a très bien souligné. Nous avons un modèle ethnocratique artificiel qui est créé par le sionisme, et je dirais même avant le sionisme, par le judaïsme politique, et vous avez en face une nation avec un peuple qui existe, qui s'est formé à travers les siècles, c'est-à-dire cette entité libanaise qui, depuis même avant les croisés, depuis depuis l'existence en fait de la Samarie et d'Israël, existait déjà, avec ce brassage de civilisation et de culture qui a créé cette culture particulière libanaise et qui est, je dirais, l'épine au pied de cette entité israélienne qui cherche par tous les moyens à assassiner la nation libanaise.
Merci infiniment de Maître Eli Atem d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris par Skype. Mes vifs remerciements vont également à vous, Luc Michel, géopoliticien belge spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission au téléphone depuis Bruxelles. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
Une vie, une œuvre.
Jalal Ali Ahmad, un écrivain engagé. Jalal Ali Ahmad commence sa carrière d'écrivain en publiant des nouvelles. Il développe son œuvre et, outre les œuvres romanesques, il effectue plusieurs articles, traductions, monographies, etc. Ali Ahmad a écrit de nombreuses histoires, dont la plupart sont des nouvelles racontées à la première personne et inspirées des expériences personnelles de l'auteur. Les histoires d'Ali Ahmad débutent par le recueil « Échange de visites », s'affermissent dans une de ces histoires longues intitulées « Le directeur d'école » et trouvent leur apogée dans le recueil de nouvelles « Cinq récits ». Son premier recueil de nouvelles « Échange de visites » reflète les relations familiales profondément influencées par la religion. Plus tard, lorsqu'il s'engage dans le monde politique, ses histoires se teintent de thèmes sociologiques et vers la fin de sa vie, déçu par la politique, il se reporte à son passé. Ses dernières histoires constituent en quelque sorte une recherche de son enfance. Parmi les œuvres romanesques d'Ali Ahmad, on peut citer « De la peine que l'on supporte » 1947, « Setar » 1948. Dans ce recueil de nouvelles, Jalal Ali Ahmad essaye pour la première fois de dépasser le monde clos de sa famille paternelle et du parti sur lequel il parle toujours dans ses œuvres, pour entrer dans un monde vide des fanatismes familiaux et partiaux. Femme de trop, 1952. Les aventures des ruches, 1958. Ce livre présente une histoire symbolique dont les personnages principaux sont les abeilles. Cette œuvre, écrite sous une forme de narration traditionnelle, comprend les expériences politiques de Jalal entre 1950 et 1951. Directeur d'école. Certains considèrent cette histoire longue comme le meilleur roman d'Ali Ahmad. Dans ce livre, il s'agit, comme le titre le suggère, d'une école et des événements qui s'y déroulent. Jalal emprunte les récits de ce livre à ses expériences personnelles en tant que professeur et directeur. Directeur d'école est le produit des pensées personnelles et des relations affectives du petit mais très chaleureux milieu de la culture et de l'école, dit-il lui-même de ce livre. Haine par la plume, 1961. Ali Ahmad emprunte le titre de ce livre au premier verset de la sourate, le Kalam, haine par la plume et ce qu'ils écrivent. Ce roman représente la situation politique de l'époque sous forme d'une légende. Jalal lui-même considère cette œuvre comme un récit symbolique des échecs des mouvements gauchistes en Iran après la Deuxième Guerre mondiale. Malédiction de la Terre, 1967. Ce livre est la dernière histoire longue que Jalal a publiée de son vivant. Dans son autobiographie, il évoque ce livre. « Je viens de publier La Malédiction de la Terre, l'histoire d'un professeur de village pendant 9 mois d'une année et les événements qui lui arrivent ainsi qu'aux habitants du village. » J'ai écrit ce livre dans l'intention d'évoquer une dernière fois le sujet de l'eau, la culture, l'agriculture, la terre et les problèmes survenus à la suite de la dépendance économique aux compagnies étrangères, ainsi que dans le but de proposer une nouvelle évaluation opposée aux idées de la plupart des politiciens et le gouvernement de ce que l'on a injustement présenté sous le nom de « réforme agraire ». 5 récits 1971 constitue l'une des meilleures œuvres d'Ali Ahmad. Il y a présenté quelques-uns des meilleurs exemples de nouvelles personnes. La forme et le contenu de ces récits sont très travaillés. 4 de ces 5 récits représentent en quelque sorte une recherche de son enfance. Dans certaines de ces histoires, l'auteur a réussi à garder tout au long du récit un accent et un esprit enfantin. Cinq récits est une peinture colorée des événements sociaux de la première décennie du XXe siècle. Jalal y présente toutes les bassesses de son époque qu'un écrivain engagé se doit d'évoquer, a déclaré Shams, le frère d'Ali Ahmad. Et enfin, une prière sur une tombe. La dernière histoire de Jalal Ali Ahmad qui a pour sujet le problème de la stérilité. Ali Ahmad doit une partie de sa célébrité à ses articles. Il écrit plusieurs articles sur des sujets très différents les uns des autres. Les articles de Jalal reflètent son caractère agressif, irascible et hâtif. Ali Ahmad se contente parfois d'évaluations précipitées. Il n'aime pas se taire en attendant qu'un jour, l'histoire et les historiens se prononcent sur le sens de tel ou tel événement. C'est pourquoi la publication de ses opinions dans différents domaines lui a parfois causé des problèmes. Selon certains critiques, il n'aurait également pas assez de connaissances dans les domaines concernant ceux sur lesquels il s'exprime parfois. Cependant, la manière par laquelle Jalal s'exprime dans ses articles, c'est tellement original que malgré les erreurs fréquentes, elle rend ses écrits très lisibles et intéressants. Son style, peu adapté aux œuvres romanesques, trouve sa véritable place dans ses articles. Dans ses premiers articles, sept articles, publiés en 1954, jusqu'au dernier, Les services et les trahisons des intellectuels, publié en 1977, le style d'Ali Ahmad ainsi que les autres aspects de son travail se perfectionnent de plus en plus. Un des articles les plus connus d'Ali Ahmad est l'occidentalité. Cet écrit exerce une grande influence sur le mouvement intellectuel de l'époque. C'est au moyen de cet essai que le terme d'occidentalisation se fait connaître en Iran, bien qu'il ait été forgé par Ahmad Fardid. Dans cette œuvre, Jalal traite des racines de l'occidentalisation et les conséquences culturelles, sociales, économiques et politiques qui en résultent. Cet essai est complété avec deux autres recueils d'articles. Trois autres articles et les services et les trahisons des intellectuels. Ce dernier présente l'ensemble des aspects de la doctrine sociale, politique et culturelle d'Ali Ahmad. L'évaluation précipitée, 1963, est un autre recueil d'articles d'Ali Ahmad. Ce livre est composé de 18 articles traitant de divers sujets tels que la poésie, la peinture, l'anthropologie, les problèmes sociaux, etc. Ali Ahmad révèle ainsi ce qui l'a poussé à choisir un tel titre. J'ai choisi « Évaluation » parce que la plupart de ces articles ne sont que des conceptions à la recherche de critiques dans les domaines différents qu'indiquent les titres. « Précipité » parce que la plupart des articles sont préparés dans de très courts délais. On ne peut séparer la vie d'Ali Ahmad de ses voyages. Il fait de nombreux voyages dans différentes régions de l'Iran ainsi qu'à l'étranger. Les impressions rapportées de ces voyages aboutissent souvent à la rédaction de monographies ou de récits de voyages. Rassi Dar Mirat, si on traduit ce titre mot à mot, signifie « brandy de bois mort au lieu de rendez-vous ». Cependant, de façon abstraite, Ras fait référence à un individu méprisable. De plus, on appelle Mirat le lieu où les pèlerins revêtent l'habit de pèlerin et se préparent pour aller à la Kaaba. Son récit de voyage, le plus connu, comprend le récit de son pèlerinage de la Mecque. Jalal, doué d'un esprit perspicace, y relève ce que les autres ne voient pas. Parmi les autres récits de voyage d'Ali Ahmad, on peut citer ceux de ses voyages en Russie, aux États-Unis, en Israël, en France et en Angleterre, ou au sein même de l'Iran. Pour préparer ses monographies, au lieu de fouiller des papiers dans des bibliothèques, Ali Ahmad préfère voyager dans divers villes et villages en essayant de les connaître de près. Ses monographies ainsi que ses autres œuvres subissent une évolution au cours du temps. Sa dernière monographie, L'île Rarque, la perle unique du golfe Persique, 1960, qui présente la géographie historique, la situation sociale, les légendes, la culture générale, etc., de cette île, est très différente de sa première monographie, Urazan, 1954, qui présente Urazan, l'un des villages situés près de la ville de Talleyrand. Les traductions constituent une autre partie de l'héritage littéraire de Jalal Ali Ahmad. Il en effectue une dizaine, choisissant des ouvrages proches de ses idées. Il traduit de grands écrivains français comme Sartre, Les mains sales, Camus, L'étranger et le malentendu, Gide, Retour dur SS et les nourritures terrestres, et Ionesco, Rhinocéros et le soif et la faim. Les œuvres romanesques d'Ali Ahmad sont les plus importantes de ses écrits. Aujourd'hui, tout le monde le connaît comme un écrivain engagé et précurseur. Outre sa sincérité, sa franchise et ses connaissances sociopolitiques, ce qui lui vaut avant tout cette célébrité est sa vision de l'écrivain et du statut de la plume. Prends garde de ne pas vendre la parole pour gagner du pain et de ne pas rendre l'âme au service du corps. À tout prix, même à la richesse de Crésus, ne te réduis pas à l'esclavage de l'homme. Si tu vends, il vaut mieux vendre ton bras plutôt que ta plume.
Mm-hmm.